Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est parti pour Clap, votre rendez-vous cinéma. Nous sommes ensemble pendant une heure et ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, ça rend mon week-end beaucoup plus beau. Dans un instant, les news de la semaine. Et puis, une actualité cinéma marquée par la disparition de celui qu'on voulait éternel, c'est Jean-Paul Belmondo. Notre magnifique, notre as des as, notre professionnel. On va y revenir dans quelques instants.
On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
Nous parlerons également des films à voir en salle en compagnie de mes spécialistes cinéma. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts cette semaine. Didier Alouche sera bien sûr avec nous depuis Los Angeles pour son JT d'Hollywood. Enfin, mon invité cette semaine est un surdoué du cinéma français. Il peut tout jouer, tout incarner. Un pompier prisonnier des flammes dans Sauver ou Périr, l'agent 1001 dans OSS 117 ou encore le grand couturier Yves Saint-Laurent et j'en passe, Pierre Ninet sera à mes côtés dans une vingtaine de minutes. J'ai lu que vous vouliez être pilote de ligne, petit.
Ouais. Bon, c'était un peu un rêve de gosse quand j'avais
oui, comme beaucoup de
11, 12 ans. Ouais. En fait, je réalise juste mes fantasmes. Quoi. Je réalise que je voulais être pompier et pilote de ligne. Non, après, voilà, je suis myope, daltonien et nul en maths.
Bon, donc, c'était battu d'avance.
C'était
quoi.
Foutu, vraiment foutu dès le départ.
Voilà le programme de votre clap qui commence maintenant.
Europe 1,
14h, 15h,
clap, Laurie Choleva.
Je le disais, triste semaine pour le cinéma français et pour tous les Français d'ailleurs. Disparition de la légende Jean-Paul Belmondo à l'âge de 88 ans.
Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
Gueule et gouaille inimitables. Jean-Paul Belmondo, le flamboyant, pouvait tout faire, il pouvait tout jouer, il ne s'interdisait rien. Mais surtout, il le faisait toujours avec le sourire. Et c'est vraiment cette personnalité solaire qui le rendait unique et qui fait que nous sommes tous très attristé. Depuis mardi, nous avons tous le cœur lourd, comme l'impression finalement d'avoir perdu un membre de notre famille.
Vous avez un nouveau message.
Je pense à une réplique en particulier. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant hier, tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Et voilà, ça m'avait marqué comme réplique, je trouvais ça assez beau.
J'étais très attristée, vraiment un choc et comme un ami qui s'en va. Quoi.
Dès qu'un Belmondo passe, on le regarde, c'est normal. Il fait partie de nous, de notre vie, il nous a accompagnés toute notre vie. Donc oui, on perd quelqu'un de la famille. Il n'y a pas un film qu'on préfère, on aime tout Belmondo, tout.
Et oui, évidemment, vive émotion parmi tous les Français. Franck Vallière, vous êtes chaque semaine à mes côtés, journaliste de cinéma. On a tous forcément un souvenir avec Jean-Paul Belmondo.
C'est pas un souvenir, c'est 10 milliards de souvenirs. Le mec a tout connu, quoi. Révélé par Nouvelle Vague, certes, mais après, il est passé 20 ans après à des trucs beaucoup plus triviaux. Qui ne se souvient pas de Josse Beaumont, Espionnage et Châtaigne.
Oui. Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gélatine.
Oui.
Josse Beaumont, Espionnage et Châtaigne.
Pourtant, il a relancé la carrière d'Alain René. Une année pivot, juste pour évoquer ça quand même quelques secondes, en 69, le mec est dans trois films. Le cerveau de Gérard Oury. Il joue également dans La Sirène du Mississippi de Truffaut, qui n'est sans doute pas son meilleur film, ok, mais quand même. C'est très particulier de perdre quelqu'un comme Jean-Paul Belmondo parce qu'on a vraiment l'impression d'être un familier alors qu'on ne le connaît pour la plupart d'entre nous que par écran interposé. C'est une grande perte, mais là je rajoute du bruit au bruit. Donc voilà.
Alors impossible de résumer l'immense carrière de Bébel de la Nouvelle Vague à des films plus populaires. Il a joué avec les plus grands, il a joué avec les plus grandes, il s'est essayé à tous les rôles et il a accompli les cascades les plus folles. Mais moi, je l'ai rencontré il y a quelques années, j'ai eu cette chance. Et quand je lui demandais quel regard il portait sur sa grande carrière, écoutez sa réponse.
Ma carrière, je m'en rends compte maintenant. Mais quand vous tournez, on ne se rend pas compte à cette carrière qu'on fait, hein. On tourne, on s'amuse et voilà. Hein. Et j'étais très surpris quand les gens m'ont dit « Je suis votre fan, j'adore vos films ». Alors, ah, merci.
C'est toujours très émouvant d'écouter Jean-Paul Belmondo, surtout dans les dernières années de sa vie. Alors, une autre personne qui le connaissait bien a accepté de nous parler aujourd'hui, c'est Philippe Labreau qui a eu l'occasion de diriger Jean-Paul Belmondo dans deux films cultes. Il y a L'Héritier et L'Alpagueur. Et il revient pour nous sur sa rencontre avec Jean-Paul.
Jean-Paul avait 40 ans, il était au sommet de sa maturité, de sa force, et de sa beauté, de son élégance. Et il éclate, il crève l'écran.
Philippe Labreau, sur le tournage de L'Alpagueur, vous auriez une anecdote à nous raconter ?
Le souvenir le plus fort, il fallait qu'il tourne une longue séquence où il court beaucoup le long d'une falaise pour ensuite descendre sur une route et courir sur la route
qui est en pente montante pour atteindre un camion qui emmène son copain qui a été kidnappé par des voyous. Et donc, c'est une très longue séquence, très difficile et très physique. Il faut beaucoup courir et il le fait, bien entendu, avec la grâce de l'athlète qu'il est. Mais c'est très long et très dur et il faut refaire une prise parce que, comme toujours au cinéma, il vaut mieux assurer deux fois, surtout pour un moment pareil. Donc, on refait la même course et le soir venu, son maquilleur, Charlie, me dit « Est-ce que tu sais, Philippe, que Jean-Paul, depuis deux jours, souffre d'une énorme sciatique ?» Et il ne s'est jamais plaint, il ne m'a jamais dit « Je ne peux pas courir, je ne peux pas tourner », alors que n'importe qui d'autre aurait arrêté.
Et pour terminer, Philippe Labro nous parle également de son film préféré avec Jean-Paul Belmondo, et c'est Léon Morin-Prêtre.
D'un seul coup, grâce à Melville d'ailleurs, il endosse la soutane d'un curé, et il est totalement crédible, et il est bouleversant, il joue très bien, il dit un très beau texte, sa voix un peu douce, avec beaucoup de sobriété et d'intelligence. C'est un très grand film, et c'est un très grand rôle. Cela dit, il est vrai qu'À bout de souffle est un film historique et un tournant majeur du cinéma français, et c'est aussi mon préféré.
Merci beaucoup Philippe Labro pour ce témoignage. Un autre témoignage dans Clap cette semaine sur Europe 1, c'est Philippe Lachaud. Alors Philippe, il fait partie de cette nouvelle génération d'acteurs forcément qui ont grandi avec les films de Belmondo, et l'envie de faire ce genre de cinéma, comédie d'action populaire, pleine de cascades et de folie. Écoutez-le.
Pour moi, Jean-Paul Belmondo, c'est la scène de fin dans Le Professionnel, où il marche sur cette musique iconique de Ennio Morricone. On se dit, c'est pas possible, il va pas se faire tirer dessus, il va pas mourir. Et au final, il meurt. Et je crois savoir qu'ils avaient tourné une fin alternative, une fin où il montait dans l'hélicoptère avec la jeune fille et que Belmondo avait décidé de choisir la fin où il mourait, en disant que ça donnerait plus de poids à l'histoire. Merci pour tout, monsieur Belmondo.
Qu'est-ce qui se passe ici ?
Rosen est mort. N'Djala est mort. Quant à moi, ça se décide en ce moment.
Je te ramène à Paris ?
Non. Mais je serais fou, je resterai pas dans la ligne de tir.
Et c'est vrai que cette scène finale du Professionnel, on a tous tremblé devant en espérant qu'il s'en sorte, hein, Franck.
Ah, puis la musique de Morricone, il est quand même aussi un peu pour quelque chose.
Hein. C'est vrai, et de la réécouter aujourd'hui avec cette triste actualité, c'est vraiment très émouvant. Je rappelle que c'est un film de Georges Lautner de 1981 et c'était leur troisième collaboration après Flic ou Voyou ou encore Le Guignolo. Alors dans un autre registre, Patrice Lecomte a dirigé Jean-Paul Belmondo aux côtés d'Alain Delon et Vanessa Paradis pour Une chance sur deux. Et Patrice Lecomte, pour nous, se remémore de quelques souvenirs de tournage.
Avec Alain Delon, puisque le film était avec Belmondo et Delon, il n'y avait pas de rivalité du tout. C'était deux copains, il y avait une fraternité, une confiance, une chaleur. C'était des potes, quoi, vraiment. Mais en même temps, ils ne voulaient pas avoir l'air moins balèze que l'autre. Et donc, par exemple, un jour, Alain Delon n'est pas venu au tournage avec son chauffeur et sa voiture. Il est venu au volant de sa Ferrari. Et le jour d'après, Belmondo est arrivé au volant de sa Ferrari à lui. Et ça voulait dire, un peu comme dans une cour de récré, moi aussi, j'ai une Ferrari. Et c'était très bien.
Dites-moi, maître, vous avez jamais rêvé d'être un oiseau ? Planer au-dessus de la furie du monde, porté par les vents. Être libre, léger, aérien. Dites oui, je suis sûr que vous en mourrez dans mon vie. Hein ?
Le code d'accès, j'attends.
Il déteste attendre. Vous voyez pas que c'est un anxieux ?
Voilà pour les news de la semaine, essentiellement marquées par la disparition de Jean-Paul Belmondo. Alors c'est difficile pour moi d'enchaîner, mais bon, sans transition, tout de suite, voici le JT de Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Vous ne le savez pas, mais vous êtes une bande de sacrés petits vénards, les Frenchies. En effet, vous allez pouvoir voir Dune 5 semaines avant les Américains. Il ne sortira que le 22 en Amérique et dès le 15 septembre chez vous. Oui, mercredi, là.
La peur tue l'esprit.
Monseigneur.
Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi.
Et moi qui parfois, pas souvent, hein, mais parfois, suis encore plus vénard que les petits vénards, je l'ai déjà vu, Dune, et j'ai complètement adoré. L'impression de voir quelque chose de totalement nouveau, de fou, d'impossible, d'intelligent et de passionnant. J'ai même eu le bonheur d'en parler avec le réalisateur Denis Villeneuve, le génial Québécois pour qui Dune, c'est plus qu'un film, c'est une obsession.
Ça m'obsède depuis toujours.
parce qu'il fallait que ça sorte.
À l'origine, il y a le livre de Frank Herbert, œuvre fondamentale de la science-fiction moderne aux dimensions philosophiques et politiques indiscutables, qui a obsédé Denis Villeneuve depuis son adolescence. Il connaît le livre par cœur. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Eh ben moi, je vais demander directement.
Je suis fasciné par l'univers que Frank Herbert a créé. Il y a une beauté, une poésie dans le roman qui continue de m'émerveiller. Il y a dans ce film, dans certains moments, à chaque fois que je regarde le film, il y a toujours un moment où je viens profondément ému parce que je m'y sens dangereusement familier. C'est-à-dire que ça, c'est comme si j'avais enfin mis à l'écran... une partie de moi s'est enfin exprimée à l'écran. Et ça, c'est très libérateur, ouais. Il y a beaucoup de sérénité dans ça.
Une sérénité qui aboutit à un film d'une puissance infinie. Pas besoin de me croire, allez vous faire une idée par vous-même. Le film est en salle, dès mercredi.
Merci Didier. Effectivement, d'une, c'est l'événement de la rentrée. On reviendra dessus, bien sûr, samedi prochain. Pierre Ninet, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être là avec nous sur Europe 1 dans Club. Vous êtes à l'affiche de Boîte Noire, actuellement au cinéma. Un film de Yann Gozlan, un thriller paranoïaque palpitant sur fond d'enquête. Et simplement, merci parce que c'est un film rare en France.
Ben merci beaucoup. Ouais. Moi, c'est un film dont je suis très fier parce qu'on propose quelque chose de français en montrant que les Français savent faire du thriller vraiment haletant. Et Yann Gozlan, le réalisateur, j'avais fait Un homme idéal avec lui et je trouve qu'il creuse un sillon d'une grande maturité et d'une grande générosité sur le film de suspense.
Alors, on va continuer à en parler, mais évidemment, l'actualité cette semaine, c'est la disparition de Jean-Paul Belmondo. On est tous très, très émus de voir partir ce monstre sacré du cinéma. Ça vous évoque quoi, vous, Jean-Paul Belmondo ?
Pas mal de choses. Moi, ce qui me touche particulièrement, je crois, dans son parcours, c'est sa capacité de passer du film d'action au film d'aventure, au film d'auteur chez Godard, des films presque plus expérimentaux... Et puis son investissement physique. Moi, je sais que j'ai grandi avec Buster Keaton, Chaplin. J'adore l'idée de l'investissement physique d'un acteur, que ce soit burlesque ou pas. Mais en tout cas, cette générosité aussi dans ce qu'il donnait avec son corps à l'écran. Je trouve toujours ça hyper touchant. Et c'est la façon... Moi, c'est la façon que j'aime, que j'imagine aborder ce métier comme ça depuis toujours. Donc, c'est quelque chose qui me parle et qui me touche.
J'allais dire, c'est exactement ce que vous faites. Vous autorisez tout, vous surfez d'un genre à l'autre et vous le faites très bien. Et ça ne choque jamais personne. Comme quoi, on enferme dans les cases, pas tout le monde.
Ouais, je pense que c'est un travail aussi parce que rapidement, l'imaginaire des gens, effectivement, que ce soit les producteurs, les réalisateurs et les spectateurs, peuvent se focaliser sur une typologie de personnages avec certains acteurs qu'on voit dans des séries, des films. C'est un travail de fond de dire aux gens non, moi je viens du théâtre, j'imagine pas jouer que des tragédies ou que des comédies. J'ai envie de pouvoir faire des choses différentes parce que j'ai envie de raconter des bonnes histoires, quoi, c'est tout. Donc c'est pour ça que je suis très fier de Boîte Noire parce que je trouve que c'est très différent d'OSS 117 qui est sorti un peu avant, mais c'est tous les deux des bonnes histoires pour des raisons très très différentes.
Alors justement, Boîte Noire, vous le disiez tout à l'heure, c'est votre deuxième collaboration après Un homme idéal avec Yann Gozlan. Qu'est-ce que vous aimez dans son univers ?
Yann, c'est quelqu'un de très pointilleux, c'est un grand cinéphile, je dirais héritier de Fincher, de Hitchcock, sur le suspense, le non-dit, les faux-semblants. Et là, en l'occurrence, dans Boîte Noire, un travail sur la paranoïa, sur le complotisme, qui est très actuel et très fort. Je pense que Yann va être un des très grands réalisateurs français, qu'il est en train de gagner en maturité en plus dans son écriture de film en film, vraiment.
Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a tout dans ce film. Et puis des personnages même secondaires, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, il y a tout. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut nous emmener. Et c'est ce qu'on recherche dans ce type de thriller. C'est qu'à un moment donné, tout ce qu'on imagine, en fait, ce n'est pas ça. Et puis, il y a aussi un travail sur le bruit, sur votre personnage. On va rappeler qu'il est inspecteur à la BEA, donc Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Il enquête sur un crash d'avion. Il a l'oreille absolue. Il entend tous les sons et on est vraiment avec lui dans cette enquête.
Ouais, complètement. Il est donc enquêteur et acousticien. Et donc, son métier, effectivement, c'est de mettre ce casque et d'écouter cette fameuse boîte noire Alors il y a beaucoup de fantasmes autour de la boîte noire, mais en fait on ne sait pas trop ce que c'est généralement. Et là, le film permet de découvrir en fait qu'est-ce que c'est que cet objet mystérieux.
Déjà, c'est une boîte.
Ouais, qui est pas noire mais qui est orange pour qu'on la retrouve plus facilement. Elle émet même un petit bip pour qu'on la retrouve parfois au fond de l'océan ou dans des endroits un peu compliqués. Et on voit cette boîte noire, on voit comment on l'ouvre. C'est assez magique quoi. Il y a un côté opération chirurgicale, opération à cœur ouvert dans cette séquence. Assez ritualisé, très cinématographique. Et effectivement, Mathieu, son métier ensuite, c'est d'essayer d'extraire la vérité de ce qui s'est passé dans ces dernières secondes, ces dernières minutes avant un crash.
Crash dans les Alpes, un Atrian 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire ?
Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal.
Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
Il y a quand même une scène d'ouverture dans le film qui est juste dingue parce que pareil, très réaliste. On a l'impression qu'on pourrait être dans cet avion en fait. Et ça se passe pas forcément pas bien.
Non, ouais, on espère ne pas être dans celui-là précisément. Mais il y a une volonté chez Ian Gosselin avec pas des budgets américains, de faire des plans aussi ambitieux. Et ce premier plan, sans rien spoiler, c'est effectivement un long travelling arrière qui part des pilotes et qui va jusqu'à la queue de l'appareil et on traverse tous les figurants, les 300 passagers de ce vol. C'est un plan génial, magnifique et je trouve hyper ambitieux pour commencer un film.
C'est du vrai beau cinéma. Ouais. Comment il vous a proposé le personnage ? Est-ce qu'il a écrit pour vous ? Il vous l'a dit ?
Alors, il a écrit pour moi. On avait très envie de retravailler ensemble depuis Un homme idéal. Le personnage s'appelle même Mathieu Vasseur, comme dans Un homme idéal. Donc, c'est un peu le Antoine Doinel du thriller de Yann. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on découvre un univers qu'on ne connaît pas du tout, des codes qu'on ne connaît pas du tout et des gens passionnants. Parce qu'en France, on a des enquêteurs sur les crashs aériens qui sont assez exceptionnels. On nous envoie même des boîtes noires de pays étrangers, tellement on est en France, ce BEA est réputé. Donc voilà, le fait de découvrir tout ça, et puis le fait de jouer avec les spectateurs, comme tu disais, sur l'attente des spectateurs, ça divise les salles. Là, on a fait des avant-premières, il y a vraiment des gens qui sortent et qui nous disent moi, cette scène-là, je me suis dit qu'en fait, il vrille complètement et qu'il est complètement parano, et c'est vrai. Et la personne à côté nous dit ah mais non, moi justement, dans cette scène-là, sur ce son-là ou sur ce personnage-là, je me suis dit qu'en fait, il a peut-être raison. Et voilà, ça, c'est un plaisir de balader le spectateur et de créer de l'incertitude, c'est de l'ambiguïté, c'est... Ça le rend actif, le spectateur.
Alors, on sait aussi comment vous impliquez dans la préparation de vos rôles, Sauver ou Périr, on se rappelle de cette transformation physique, et puis aussi de votre incursion dans le monde des pompiers. Je sais qu'il y a eu un avant, un après. Je suppose qu'il y a aussi un avant, un après boîte noire. Je pense que vous êtes préparé de la même façon. Vous avez vraiment infiltré le milieu.
BEA, ouais. J'ai passé du temps avec ces enquêteurs, effectivement. J'ai fait un peu un travail un peu journalistique à filmer, prendre des notes. Alors, c'est un métier assez solitaire, donc c'est des gens, il faut un peu les approcher, les dompter un petit peu. Il y a une timidité à surpasser. En tout cas, le profil que j'avais trouvé, un jeune enquêteur au BEA, je me suis rapproché de lui, je lui ai demandé si effectivement je pouvais le filmer, voir comment il tapait sur son clavier, comment il écoutait des sons. Il m'a fait écouter des boîtes noires. Donc tout ça était assez fascinant à préparer. Ouais. Et puis, le film était... C'est un film très nerveux, assez intense. Et c'est vrai que je suis sorti de ce film, je crois, plus lessivé qu'aucun autre film. Et pourtant, j'ai fait l'Odyssée, par exemple, où je suis parti en Antarctique, et où c'était une autre forme d'épuisement. Mais là, c'était vraiment particulièrement éreintant et intense, ce parcours de Mathieu Vasseur dans Boîte Noire.
Pour le spectateur aussi, mais dans le bon sens. On est vidé. On a l'impression d'avoir enquêté pendant 3 mois sur ce crash. J'ai lu que vous vouliez être pilote de ligne, petit.
Ouais. Bon, c'était un peu un rêve de gosse quand j'avais
comme beaucoup de 11, petits garçons.
12 ans, ouais. En fait, je réalise juste mes fantasmes. Je réalise que je voulais être pompier et pilote de ligne. Mais c'est aussi le plaisir d'être acteur, ouais. Je suis myope, daltonien et nul en maths.
Bon, donc, c'était battu d'avance.
C'était foutu, vraiment foutu dès le départ.
La magie du cinéma, voilà. Vous avez côtoyé l'univers, en tout cas. Votre partenaire, Lou Delage, elle a un personnage qui est très intéressant. Elle joue votre femme, elle est froide, carriériste. C'est vraiment... un beau personnage secondaire qui a une place de choix et qui n'est pas seulement le faire-valoir du personnage principal. Ouais. Et je crois que c'est vous qui l'avez appelée pour qu'elle vienne sur le projet.
Bah ouais, moi, en fait, on a eu un désistement d'une actrice qui n'a pas fait le film et qui s'en mordra les doigts.
Je pense.
non, je blague. Mais en vrai, dans les hasards de calendrier comme ça, il y a un peu... de la magie qui se passe. Mmh. Et moi, j'avais Lou en tête en vrai depuis longtemps et j'ai dit à Yann, est-ce que tu veux pas qu'on l'appelle ? Donc je me suis permis de l'appeler. On a tourné il y a 10 ans ensemble dans un film qui s'appelait J'aime regarder les filles. Mmh. C'était tous les deux notre premier, vraiment premier rôle au cinéma. Donc il y avait un peu la magie des retrouvailles. Et Lou, en une semaine, a fait un taf énorme. Et puis elle a une tête qu'on n'a jamais vue, une coupe de cheveux. vraiment, il y a un truc qui marche immédiatement sur le côté jeune femme brillante, fonceuse, carriériste, hyper douée, elle, socialement, contrairement au personnage de Mathieu, son mari. Et j'étais hyper heureux de partager ces scènes avec elle. Et effectivement, c'est un personnage important. Puis c'est un personnage surtout qui va inspirer aussi des doutes, des ambiguïtés. Il y a du mensonge, donc on commence à se questionner. Voilà, la paranoïa va venir même infiltrer le couple, quoi.
Claude, je voudrais vous présenter Mathieu, mon mari.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai suivi votre intervention hier. C'était très clair, très, très rigoureux. Bravo.
Ben, merci. Merci.
D'ailleurs, loin de moi l'idée de faire une OPA sur votre couple, mais si un jour vous vous lassez du BEA, n'hésitez pas. Vous serez bienvenu chez Adrien.
Je ne cherchais pas, il est un des beaux chefs.
Il y a même à un moment donné, au début du film, où on se dit... Oh là, tellement froide qu'on a du mal à cerner ce personnage, ce jeu aussi. Et puis voilà, après, je vous laisserai découvrir, parce que c'est toute la beauté et la réussite de Boîte Noire. C'est que je le disais tout à l'heure, on ne sait pas où ça nous amène. Et ce personnage, il est là, effectivement, pour nous faire douter. Et ce que j'aime aussi, c'est ce dosage entre, effectivement, vous incarnez un couple. Et à aucun moment, on se perd dans l'histoire. On perd de vue l'enquête et où est-ce qu'on va.
Non, mais Yann, il est très attentif à ça quand il écrit. Yann Gozlan, le réalisateur, il veut que le film soit très, je sais pas comment dire, à l'os, quoi. Vraiment, il veut qu'il y ait un côté très efficace, en fait, dans le bon sens du terme, pour le spectateur, quoi, que ce soit une expérience, effectivement, qui avance tout le temps et qui soit une quête de vérité aussi haletante pour Mathieu Vasseur, l'enquêteur, que pour le spectateur. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien de superflu. Tout est au cordeau, quoi.
Tout est très rythmé. André Dussolier aussi, qui
ouais,
est fantastique,
André
Dussolier, comme d'habitude, évidemment.
Magique, quoi. J'étais tellement heureux de partager des scènes avec lui, d'entendre sa voix qui a tellement bercé ma vie. C'était génial.
Vous avez ressenti quoi en le voyant ? Vous attendiez à ça ?
En voyant le film, je l'ai trouvé encore plus réussi que le scénario. Vraiment. Non, je ne dis pas ça du tout en mode promo. Hein. Je suis totalement sincère. C'est un des films dont je suis le plus fier, quoi. Je trouve que Yann a fait un taf énorme et surtout un taf qui est rare en France, quoi, d'une vraie réussite de maturité d'écriture, de recherche, de précision. Et tout ça dans un divertissement populaire quand même, quoi, très accessible. Il n'y a pas besoin d'aimer les avions pour aimer le film, il n'y a pas besoin d'aimer l'aéronautique, il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit.
Non, il faut se laisser porter.
Ouais, exactement.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous, nous sommes toujours sur Europe 1. Je suis en compagnie de Pierre Ninet qui est à l'affiche de l'excellent thriller paranoïaque Boîte Noire. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Pierre, on va aborder les films de votre vie, si vous êtes d'accord.
Avec plaisir.
Alors, si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma.
Meilleur souvenir de cinéma, je dirais que la vie rêvée de Walter Mitty, de Ben Stiller.
Alors, assez récent, donc.
Ouais, assez récent. J'adore ce film. Et c'est surtout, enfin, quand si vous me posez cette question, je pense c'est un souvenir de cinéma parce que j'étais avec mes meilleurs potes. Genre, on était peut-être même 10 ou 12, une grande bande de potes au cinéma. Et quel kiff d'aller dans une salle. Et puis c'est vraiment un feel-good movie, ce film, qui est un appel à l'aventure et à oser des choses. C'est un film que j'adore. Et puis surtout le souvenir d'être avec tous mes potes et de se regarder pendant le film et de savoir qu'on est entouré de gens qu'on aime en allant au cinéma, ça je trouve que c'est particulier, quoi.
Bah, c'est toute l'essence du cinéma. C'est pour ça qu'on est bien heureux que les salles de cinéma aient rouvertes. C'est le partage. Partager ça avec des gens qu'on aime ou des gens qu'on ne connaît pas aussi. Mais...
Bien sûr, ouais, je pense qu'il y a aussi un brassage social important qui se fait de rire ou d'être ému ensemble et qui sera indétrônable, j'en suis sûr.
Alors, votre première grande émotion au cinéma ?
Je pense que c'est La vie est belle de Benigni, qui est un film que j'ai vu jeune. En fait, je réalise que mes parents m'ont emmené voir ça assez jeune. Mais pareil, l'humour, la poésie, alors que c'est un sujet si grave et si lourd.
Oui, puisque c'est l'histoire d'un père juif italien déporté dans un camp de concentration avec sa famille qui veut éviter à son fils d'affronter l'horreur de la situation et qui transforme son quotidien en jeu.
Exactement. Il lui fait croire que ces camps de concentration sont en fait un grand jeu de cache-cache, de représentation. Et l'humour, la poésie qui est insufflée dans le film, c'est juste absolument sublime et à pleurer. Et, ouais, j'adore ce film, donc c'est une énorme émotion d'avoir découvert ça. Ouais.
Ah, tu vois, José, ton papa, il t'emmène dans de beaux endroits quand même, hein, hein. Et toi alors, tu as joué avec les autres enfants aujourd'hui?
Oui, mais ils connaissent pas les règles du jeu, ils en ont même pas entendu parler. Ils disent que c'est pas vrai qu'on gagne un char d'assaut comme prix. Ils savent pas qu'il faut marquer des points.
Ils ont essayé de rouler.
Alors, votre séance de cinéma la plus dingue?
Je dirais que c'est la Tour Montparnasse Infernale que j'ai vue au Gaumont-Parnasse et qui était peut-être la première fois que j'avais le droit d'aller au ciné qu'avec des amis. Et hystérie collective, quand une comédie électrise vraiment un public, quoi. Et ça, ça a eu lieu ce jour-là, c'était le mercredi de la sortie. Et j'étais littéralement par terre de rire, quoi. Vraiment, j'étais par terre, je n'en pouvais plus de rire. Et il y avait une électricité magique dans la salle, comme ça peut arriver sur les comédies. Je suis persuadé que le cinéma aussi, ça a été quand même aussi pensé comme ça, pour ça, quand on pense à Chaplin, à ses premiers films. Je pense qu'il y a un truc populaire très fort aussi.
Alors c'est avec Eric et Ramzy qui vont beaucoup plus loin à l'époque que Les Nuls. La Cité de la Peur, ça va encore plus loin, la Tour Montparnasse. Et c'est vraiment une époque où je crois que ce sont les premiers à être, allés aussi loin dans l'absurde.
Ouais, complètement. En tout cas, ils avaient un duo tellement, une alchimie de débiles, de Dumb and Dumber, tellement, tellement fort, tellement drôle. Moi, c'est vraiment des héros de ma vie quand même, Eric et Ramzy, que ce soit... même en dehors des films, ils ont fait un Vie ma vie qui est incroyable. J'invite les gens à aller sur YouTube le découvrir, où ils vont au GIGN, c'est juste exceptionnel. Donc, grand
souvenir. Le film aura 20 ans cette année.
Je le dis toujours à Eric quand je le croise, je lui dis que c'est ma comédie préférée. Avec La Cité de la Peur, sans doute. Mais,
la Cité de la Peur, c'était bien aussi.
Ça va ? Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con.
Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit, là ?
Chut, chut, chut.
T'es mignon, mais t'es un tout petit breton.
T'as vu, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de moi parce qu'elle a dit « je suis mignon ».
Elle a dit aussi « t'es un tout petit breton ».
Le film que vous revoyez sans cesse ?
Le Truman Show, que je vois beaucoup, je pense au moins une fois par an. Ouais,
Peter Weir avec
Jim Carrey.
Film complètement avant-gardiste, quoi, en avance sur notre époque, puisqu'il est dans une télé-réalité, il ne le sait pas.
Il est dans une télé-réalité, il ne le sait pas, et je pense qu'on a tous cru qu'on était dans une télé-réalité, qu'on ne savait pas en sortant de ce film. C'est une bonne paranoïa mondiale.
On se demande s'il n'y a pas des caméras quelque part, je suis complètement d'accord.
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman, t'es interdit !
Pourquoi ? Il y a quoi de l'autre côté ?
Ils ont créé un mensonge.
Envoyez le soleil.
Ils contrôlent une vie.
Votre comédie romantique préférée ?
Alors, Love Actually, c'est sûr que c'est mon top. Je trouve que c'est vraiment un film très 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 réussi. Il faut pas hésiter à défendre des films qui sont soi-disant légers. C'est dur de faire un film léger et généreux. Donc Love Actually, chef d'œuvre. Et puis en français, pour un petit peu quand même le côté cocorico, L'Arnaqueur avec Romain Duris, c'est une réussite totale.
Oui, c'était un très beau succès, c'était un beau duo de cinéma. Love Actually, bon, évidemment, on l'a tous vu une fois.
Ouais, bah, ça aussi, on connaît par cœur.
Quelle est votre scène préférée ? Les pancartes ?
Non, moi je suis moins midinette que ça quand même. Les figurants qui doublent des acteurs porno dans le film et ça devient un crush trop mignon entre deux alors qu'ils doivent reprendre des positions évidemment sexuelles pour doubler ces acteurs porno. Je trouve que c'est la meilleure rencontre romantique, la plus drôle et la plus mignonne.
C'est vrai que ça crée des liens.
Ouais,
c'est vrai que cette comédie de Richard Curtis, hein, pour rappel, si vous ne l'avez pas vue, mais je pense que vous devez être très peu à ne pas avoir vu Love Actually, sont plein de destins qui s'entrecoupent à la veille de Noël.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est le film de chevet à revoir au moment des fêtes de Noël.
Franchement, c'est magique ce film.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?
Je dirais Good Morning England, sur ce bateau de Radio Pirate, avec que des personnalités de ouf, des acteurs dingues, une ambiance exceptionnelle. Je sais pas, ce bateau, il fait trop envie, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un film générationnel, c'est un film pareil, c'est un film de potes, c'est un feel good movie, ça ne vieillit pas non plus.
Hyper bien écrit.
Le film de votre jeunesse ?
Le Roi et l'Oiseau, que j'ai dû voir 200 fois, avec des textes de Prévert. Mmh. Qui a un magnifique dessin animé.
Rien à voir avec l'univers Disney.
Non, rien à voir avec Disney. C'est plus absurde. C'est de la poésie pure, quoi. Mais ça a vraiment bercé mon enfance, ça, Le Roi et l'Oiseau.
Vous l'avez montré à vos enfants ?
Pas encore, mais ça me saurait tarder, ouais.
Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir ?
Je dirais tous les Hitchcock. Mon père, il m'a fait découvrir tous les Hitchcock. J'ai un souvenir peut-être plus vif de Vertigo.
Sueur froide.
Ouais.
On nous l'a cité la semaine dernière. C'était Laurent Lafitte qui disait que c'était le film qu'il revoyait sans cesse.
Ouais, ouais. Bah ouais, je suis d'accord. Vertigo, il m'a vraiment marqué. Fenêtre sur cour aussi.
Oui.
Mais ouais, les Hitchcock, j'ai eu la chance de les voir jeunes.
Votre bande originale de film préférée?
Je dirais les films d'Inarritu, sûrement Babel. Alors je vais toujours mal dire son nom, mais c'est Gustavo Santaolalla. Je crois que je me plante.
Ça a l'air d'être pas mal.
Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. J'ai toujours un peu du mal à dire son nom, mais j'adore sa musique. Je l'ai même emprunté pour une pièce de théâtre que j'avais montée. Donc je dirais Babel, ouais.
Alors la bande originale qui vous émeut à chaque écoute?
Et bah, même compositeur, mais pour 21 grammes, peut-être aussi parce que le
même
film.
Même réalisateur.
Ouais, même réalisateur et film bouleversant avec Sean Penn. Ouais.
Sean Penn et Benicio del Toro, ils filment très, très fort, très dur aussi.
Ouais, il fait rarement des films très, très gays.
Oui, c'est vrai.
Mais.
Parce que le pitch, c'est quand même qu'on perd tous 21 grammes au moment précis de notre mort.
Ouais.
Et on suit trois destins.
On se demande si c'est le poids de l'âme ou pas. Ou qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce film est magnifique. Ouais. C'est un film que je trouve bouleversant. Et Amour Chienne aussi. Enfin, tous les films d'Inarritu sont assez magnifiques.
Alors, la BO qui vous met de bonne humeur?
Récemment, Yesterday, parce qu'il y a tous les Beatles.
Ah, oui,
et cet acteur qui chante réellement dans le film, il a une voix incroyable. Et sa manière de chanter les Beatles est assez géniale.
Le pitch du film est dingue, parce que si on se réveillait dans un monde, finalement les Beatles n'existent pas.
Ouais,
mais lui, il a en tête les chansons.
Ouais, les Beatles n'ont jamais existé et il n'y a que lui qui s'en rappelle.
Ça, ce serait terrible quand même.
Film de Danny Boyle sur l'usurpation et sur le génie des Beatles, évidemment. Il y a une scène assez mythique avec Ed Sheeran, notamment, qui joue très très bien. Ed Sheeran, très bon acteur. Donc je dirais Yesterday. Yesterday.
Quand est-ce que t'as écrit ça?
C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça. Les Beatles.
Qui?
Le film que vous écoutez pour faire du sport ou pour vous motiver?
Alors, vous m'avez envoyé ce questionnaire, j'avais aucune idée, et donc juste pour te faire une vanne, j'ai mis la liste de Schindler.
Alors, effectivement, j'ai vu ça et je me suis dit...
Tu t'es dit quoi?
Alors, je me suis dit soit...
Le gars est fou.
Ce qui est possible, soit il me fait une vanne.
On était clairement sûrs, j'avais pas d'inspiration. Et je me suis dit...
J'ai trouvé ça très drôle, j'ai beaucoup ri.
Ouais, j'écoute la liste de Schindler, vraiment. Ça et Miley Cyrus, vraiment, en boucle. Non, en vrai, j'ai pas de musique particulière pour le sport. Non, peut-être j'écoute Kanye West, genre, pour faire du sport.
Je crois. Un truc un peu plus rythmé.
Ouais.
Après, je me suis dit, pourquoi pas? On peut écouter de la musique classique pour faire du sport. Après,
c'est
film
particulier
quand même.
Ça
reste, c'est un chef-d'œuvre, mais ça reste un des films les plus tristes.
C'est sûr. Moi, je fais du sport en pleurant, en fait. C'est mon truc, vraiment, j'adore ça.
Vous êtes un artiste torturé.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai que la partition d'Alice de Schindler est juste incroyable.
Bien sûr.
Mais pas pour faire du sport.
Non, peut-être moins.
Voilà, peut-être pour se remettre d'une peine de cœur.
Ouais, et encore, on sera plus sur Miley Cyrus, là aussi.
Merci beaucoup Pierre Ninet, c'était
Merci.
Vraiment un plaisir comme d'habitude. Je rappelle que Boîte Noire est en ce moment au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut dire pour motiver les gens à aller voir Boîte Noire? Comment on résume ce film?
Comme je disais, moi je choisis que des films où je pense que ça va être une expérience de cinéma unique. Et là je suis très fier de ce film parce que entre la paranoïa, on l'a dit, le côté haletant du film, les questions de la technologie, du complotisme et surtout l'expérience sensorielle, c'est-à-dire le son, et effectivement le travail que Yann a fait sur le son est extraordinaire, et ça il n'y a que en salle que les gens vont le vivre. Donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens aussi parce que c'est comme les bonnes séries aujourd'hui, quoi. On a tout le temps envie de comprendre et de savoir ce qui va se passer à la prochaine scène. Donc je le recommanderais pour beaucoup de gens. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de s'intéresser particulièrement au thriller ou à l'univers de l'aviation pour kiffer le film. Donc j'invite les gens à y aller.
Et surtout, il faut vraiment le voir en salle.
Vraiment.
C'est un film, si vous le ratez en salle, non, ça c'est pas possible. On ne peut pas le voir sur petit écran.
Ouais, c'est vrai.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Ouais,
restez avec nous sur Europe 1. On va débattre dans quelques instants des films à voir actuellement au cinéma. Et puis on va se quitter sur donc la chanson qui vous met de bonne humeur, Pierre Ninet. Je rappelle que c'était la BO de Yesterday, donc la BO des Beatles. Alors choisissez une chanson qu'on va écouter tout de suite.
Et on peut écouter Help.
Allez, c'est parti. C'est sympa ça. Help, I need somebody. Help.
just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.
Beatles, bande originale de Yesterday, le film qui met Pierre Ninet de bonne humeur.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et cette semaine, on va vous raconter plein de choses et surtout, on va vous conseiller sur les films à découvrir au cinéma. Alors, j'ai à mes côtés Franck Vallière depuis le début de l'émission. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal+. Et Victor Bonnefoy de Pardon le cinéma, ça va devenir une habitude, Victor, de se retrouver ici.
Ah, mais moi, je suis ravi d'être là toutes les semaines. L'ambiance est bonne, il fait bon, c'est cool.
Et on parle cinéma, en plus.
Bah oui, formidable.
On démarre ce programme chargé avec Boîte Noire. On vient d'en parler avec Pierre Ninet. C'est un polar de Yann Gozlan, si vous nous rejoignez, dans lequel Pierre incarne un acousticien de la BEA chargé d'analyser la boîte noire d'un crash d'avion.
Atténue le moteur dans le médium.
Concentrez-vous sur ce qu'on entend.
J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée.
Ça va intérêt à avoir raison.
Vous vouliez ajouter un petit mot, Franck, je crois que vous avez beaucoup aimé le film.
Oui, ce qui est remarquable dans le film, c'est qu'on a changé d'époque. Et par exemple, les emmerdeurs comme un peu musculeux du type Devers qu'on voyait dans les films complotistes des années 70 par de très grands réalisateurs français. Le mal s'est diffusé dans toutes les entreprises. Le mal n'est plus ciblable maintenant. Et du coup, les héros qui portent ces films-là sont beaucoup plus fluets, ce qui correspond à la physiologie de Pierre Ninet. Et donc, ce sont des geeks. Il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans la représentation du héros, je trouve, dans Boîte Noire.
Et on écoute tout de suite vos réactions.
J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé qu'ils arrivent à pousser le cran jusqu'au point où on se pose la question et qu'on remette tout en question.
Franchement, il est vraiment pas mal. C'est un bon thriller à la française. Il y a beaucoup de tension et c'est un peu stressant.
On est dedans, en fait. On a l'impression d'être avec eux, quoi. Mais bon, le film, à la fin, on a l'impression d'être dans un film de Hitchcock, avec la musique et la vitesse et tout. C'était hallucinant, quand même.
Victor, vous avez aimé Boîte Noire ?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé Boîte Noire et j'ai pas aimé Boîte Noire que pour le scénario. Je l'ai aimé aussi énormément pour la mise en scène de Yann Gozlan parce que, mine de rien, quand on se retrouve face à cette histoire de type qui est acousticien, qui va écouter des bruits de crash d'avion, on se dit « Waouh, ça dure 2h10, ça risque quand même d'être super chiant si on est juste devant un type sur son ordinateur qui écoute des bruits d'avion. » Et c'est là où se révèle tout le génie du film. C'est déjà bon, par le talent des comédiens, que ce soit Pierre Ninet, que ce soit Lou Delage, que ce soit André Dussolier qui n'a plus rien à apprendre à personne. Vraiment, il est incroyable dans le film. Et puis arrive Yann Gozlan qui nous dit non, on va essayer de reconstruire de la la cinématographie à l'intérieur de tout ça. Il se permet notamment à un moment de nous faire toute une scène avec un décor d'avion dessiné sur le sol. On a l'impression d'être dans Dogville de Lars von Trier.
Génial, cette scène.
Et puis soudainement, on part en flashback à l'intérieur, comme s'il s'imaginait. Et c'est mine de rien, en plongeant dans le décor, en plongeant dans le flashback, dans le cinéma, que le personnage de Pierre Niney arrive à mener l'enquête et à mener l'enquête à nos côtés. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est passionnant dans le film, c'est qu'on se perd. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on se dit est-ce que notre personnage est complètement fou ? Est-ce qu'on est en tort d'être en accord avec lui ? Et en même temps, bah on passe un moment incroyable, on est surpris à la fin et on se dit le cinéma français est capable de produire ce genre de thriller paranoïaque de grande qualité, on en veut plus, on veut plus de films de Yann Gozlan, mon Dieu.
Et je pense qu'il y en aura encore plus. Et alors cette semaine, c'est également la sortie d'un film OVNI qu'on a beaucoup aimé ici, Les Méchants, premier long métrage de Mouloud Achour et Dominique Bommard.
J'ai allumé la télé pour regarder ma série. Sur la 1, il y a Les Méchants. La 2, il y a Les Méchants.
Ah, on est dans la merde là.
Il y a des vidéos de nous partout, à la télé, sur internet, ils disent qu'on est les méchants et qu'on va faire sauter la planète.
On a peur de la police !
Ah, vas-y, ta gueule avec ta tête de puceau là.
La grosse moula, poursuivi par les méchants.
Nous on est des gentils, nous, à la base.
Alors un film complètement à part dans le cinéma français et comme je le vois qui trépigne, je vais tout de suite laisser la parole à Victor.
Mais je trouve ça assez formidable, Les Méchants de Mouloud Achour. Alors un film qui, de loin, de prime abord, quand il a commencé à être annoncé, bah, y a plein de gens qui ont commencé un peu à être réticents, à se poser des questions. Et en même temps, je comprends parce que Les Méchants de Mouloud Achour s'inscrit dans une tradition de cinéma très américain. Et je pense notamment au Stoner Movie, je pense à Clerks de Kevin Smith, je pense à énormément de films de Seth Rogen qui sont sortis pendant les années 2000. Justement, ces films où on zone, où nos personnages sont des vrais galériens à qui il arrive des problèmes dans la vie et que justement vont vivre des situations qui tendent à l'absurde et qu'un certain public, le Stoner Movie, ça vient mine de rien du fait que le public de ces films-là le regarde souvent défoncé et donc du coup l'humour vient justement d'absurdité à la fois de la situation du public et de la situation du film. Mais c'est pas juste une comédie bête qui enchaînerait une avalanche de caméos parce qu'on y retrouve à la fois des rappeurs comme Meuss l'Enfoiré, des comédiens confirmés comme Omar Sy avec des comédiens moins confirmés en face. Tout ça s'agence au final pour faire un film.
Il y a Roman Frécinet qui sera avec nous en quelques instants.
Exactement, mais que des comédiens qui sont issus, mine de rien, de Clique et de cette bande. C'est un film de bande et c'est ça qu'on aime justement parce que cette bande, elle nous a fait rêver à la télévision et quand elle arrive au cinéma, elle fait quelque chose de grand et elle fait quelque chose de beaucoup plus malin qu'on peut le penser. C'est pas juste une comédie. Pour moi, c'est pas juste une comédie, c'est un film qui est beaucoup plus sombre. C'est le constat d'une époque qui a merdé. C'est le constat d'une époque où on
la
est.
La quête du sensationnel, les réseaux sociaux, les médias, tout ça.
Les problèmes d'aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux, qui sont aux mains d'on ne sait qui, les chaînes d'information en continu qui diffusent tout pour le buzz en permanence. Et au final, quand le film se conclut, quand on arrive dans son dernier acte, on se demande même s'il y a de l'espoir dans tout ça, si ce n'est pas le constat d'un échec, si tous les gens qui disaient je suis Charlie à une époque et qui disent maintenant je suis Patrick ne se cachent pas derrière un slogan pour au final redevenir au bout d'un moment les mauvaises personnes qui sont les vrais méchants au final. Le film se permet même d'envoyer à la fin 12 francs de carte de séjour. On entend la voix de Rachid Taha et quand on entend ça, moi ça me donne plus envie de pleurer que de rire parce que je trouve que le film y trouve une véritable mélancolie, une véritable douceur, le constat d'une époque qui peut être amerdée et donc quitte à ce que ça ait merdé, autant en rire.
Ouais. Et ce qui est fantastique aussi, c'est qu'il y a du brain. En fait, c'est un film qui est faussement wesh. Il est très lettré. Et d'un seul coup, tout se révèle au travers de phrases très imagées, comme le langage de ces jeunes, qui sont donc les acteurs de cette génération, acteurs au sens littéral, mais aussi acteurs au sens actif de cette génération.
Mais pour moi, c'est la preuve d'un truc qu'a toujours dit Mouloud, et pour lequel moi je me suis battu depuis des années, c'est que les rappeurs sont les nouveaux poètes. Et quand on voit justement des gens de, par exemple, 13 blocs dans le film, qui se mettent à citer du Guy Debord, et justement, dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux, quand il y a ce genre de citation qui arrive dans le film, on se dit, mais comment on peut croire que c'est une simple comédie? Comment on peut croire que c'est juste un moment pour rigoler? Il y a beaucoup plus que du rire à l'intérieur.
C'est une satire énorme, vraiment. Hein.
Et énorme et complètement à part aussi. Donc voilà, il faut aussi saluer le genre nouveau et le vent de fraîcheur qu'apporte Mouloud. On a tout de suite Roman Frécinet qui est avec nous par téléphone. Roman Frécinet, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes à l'affiche des Méchants, le premier long métrage de Mouloud Achour avec Dominique Bommard. C'est avant tout un film de potes, non ?
Bonjour. Un film de potes, c'est un film de gens qui se respectent beaucoup mutuellement et qui ont du plaisir à passer du temps ensemble, ouais. Mais comme il dit Mouloud, quand tu travailles avec des amis, t'es encore plus exigeant. Mm-hmm. Et je pense que c'est une des forces aussi de ce projet, c'est qu'entre tous les participants, il y avait beaucoup de respect et d'exigence.
Alors c'est vraiment un film pour moi très générationnel, qui va un peu dans tous les sens, qui apporte quelque chose de très nouveau finalement dans le cinéma français.
Mm. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce qui m'a plu directement. Il y a une proposition, en fait. Et moi, je suis fan de tout type de proposition. Je pars du principe qu'à partir du moment où on veut proposer quelque chose de différent, on a déjà réussi, quoi.
Mouloud Achour, il vous a dirigé comment pour ce film ?
En fait, il avait une idée vraiment très précise de ce qu'il voulait. Et donc, il nous laissait pas mal de liberté et en même temps, qu'il y avait un vrai bon mélange entre sérieux et rigolade, quoi.
Et alors, pour terminer, Mouloud, il était stressé quand même, parce que c'est son premier film pour le cinéma.
Ben ouais, moi, je me souviens de la première journée de tournage où on est Jimo et moi, et les deux, on est super stressés parce que c'est notre premier film, quoi. On a super peur et on se retourne vers Mouloud dans l'espoir d'être rassuré et on le voit, il nous regarde en mode « Moi aussi, c'est mon premier film, on est tous dans la même histoire, les amis ». Et en même temps, c'était trop cool, quoi. On s'est dit « Allez, on est tous ensemble dans la même aventure et allons-y, donnons tout ».
Merci beaucoup, Roman. À bientôt.
Eh ben merci, c'était un plaisir. À bientôt.
Autre sortie qui fait du bien et Europe 1 est partenaire, c'est Respect, le biopic très attendu sur la reine de la soul, Aretha Franklin. Alors ici en France, on la connaît pour ses tubes, mais aux États-Unis, elle était bien plus, véritable leader d'opinion, porte-parole pour les minorités. Le film montre vraiment en fait un parcours de femme, une femme qui a dû s'affranchir de l'influence des hommes de sa vie et une femme surtout qui a dû transformer ses peines en inspiration artistique pour donner lieu à des chefs-d'œuvre, comme celui-là par exemple.
Cette chanson s'adresse à tous ceux qui se sont déjà sentis maltraités.
Alors, qu'en avez-vous pensé ?
Je trouve que c'est une histoire importante à raconter et je trouve que c'est pas souvent qu'il y a un biopic comme ça sur une femme noire qui a marqué l'histoire, notamment l'histoire de la musique. Donc, je trouve qu'on devrait aller voir.
J'ai adoré le film. Il est un petit peu long, mais il est vraiment très, très bien fait, très bien filmé. Donc, j'ai beaucoup aimé.
C'était très émouvant et c'était beau. Ça m'a ému. Je vais acheter un bouquin pour mieux la connaître.
Et vous, Franck Vallière, alors ? Un petit mot sur Respect ?
Eh bien écoutez, gros biopic à l'américaine, bien sympathique, réalisé par une fille qui est sud-africaine, métisse. Et c'est une femme, donc est-ce que c'est un hasard ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'aux États-Unis, on ne fait pas un casting de réalisateurs comme on dit « Tiens, on va prendre celui-là, et puis c'est bon ». On propose le film à des gens, en disant « Vous avez des idées ?» Et elle me l'a expliqué par téléphone, en fait, j'ai discuté une fois avec elle. Elle me disait
quoi, je
dis, mais comment ça se fait que vous n'ayez rien fait, si ce n'est deux panouilles dans quelques séries télé, et que de ce coup, vous vous retrouvez à la tête d'un projet comme celui-ci, qui est quand même assez largement oscarisable, puisque vous le disiez, Laurie, ici, c'est la chanteuse de Respect, mais aux États-Unis, c'est quand même une méga grosse star impliquée politiquement, etc. Donc, le rôle est oscarisable pour notamment Jennifer Hudson. Et du coup, en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait simplement envoyé des propositions et que pour elle, l'essentiel était de se focaliser sur la jeunesse d'Aretha Franklin jusqu'à la fin de ses 20 ans, c'est-à-dire à l'âge où elle est en pleine maturité, où elle a gagné confiance en elle suffisamment pour envoyer pêtre tout un tas de dogmes masculins. Et alors bon, le film passe par contre sur des passages un petit peu plus tragiques, sur sa boulimie, son addiction à l'alcool n'est pas évoquée, le fait qu'elle ait dû avorter à 12 ans alors que quelqu'un était venu lui rendre visite dans sa chambre, alors que faut dire que son père était très important dans la communauté de Détroit.
Mais écrasant pour elle.
Voilà, écrasant pour elle. Mais c'était une famille, étrangement, c'est pas une chanteuse qui vient du ghetto. Ses parents étaient plutôt bourgeois et recevaient toute l'intelligentsia artistique, politique. Martin Luther King était à la maison, etc. Donc c'est un parcours de femme vraiment extraordinaire, avec des grosses ficelles américaines super à voir pour le samedi soir.
Voilà Respect en ce moment au cinéma, un film européen. Et puis pour terminer, mais rapidement, parce qu'on avait beaucoup de choses à vous présenter cette semaine, le nouveau film de Mathieu Amalric, Serre-moi fort, Franck.
C'est très compliqué en deux secondes. Oui. C'est l'histoire d'une femme démissionnaire qui quitte son couple et ses enfants, mais c'est peut-être tout à fait autre chose. Entendez par là, et j'en finis rapidement. C'est très important dans ce film, c'est un film sensible, sublime, dans lequel on est perdu par Amalric dans un système qui s'avère être un usual suspect mental et qui cache bien des surprises jusqu'à la dernière seconde. Et quand vous revoyez le film la deuxième fois, ce que j'ai fait, tout était déjà là et vous ne l'avez pas vu. C'est brillantissime, techniquement, artistiquement. Allez voir ce film.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je serai en compagnie d'André Dussolier. J'espère que cette émission vous a donné envie d'aller au cinéma. Merci Victor Bonnefoy et Franck Vallière d'avoir été à mes côtés. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Restez à l'écoute d'Europe 1 et surtout, portez-vous bien.